Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor. Je suis votre chef de cabine au nom de notre commandant de bord qui est ce soir Loustal. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux de Lanzarote, de Glasgow, de la Namibie, de Tahiti et des îles Aouliennes. Vos téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redresser votre curiosité. Et en vue de notre décollage immédiat, mettez dans votre bagage à main un Leica numérique, des jumelles Bushnell et un Panama Superfino roulé. Ladies and gentlemen, welcome on board. My name is... Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir avec Loustal. Vous êtes dessinateur ou illustrateur? C'est mieux dessinateur, non? Qu'est-ce qui vaut mieux?
Dessinateur, c'est mieux, parce qu'illustrateur, c'est... on dépend des gens quand on est illustrateur. Il faut qu'on nous donne quelque chose à illustrer, alors que dessinateur, ça vient de soi, un peu comme un peintre. Ou... c'est un de ces rares métiers où on est au centre de son travail et on ne dépend de personne.
Enfin, vous avez commencé à quel âge? Parce que vous étiez aux Beaux-Arts.
J'étais aux Beaux-Arts comme architecte entre 73 et 81, mais j'ai commencé à dessiner tout petit, forcément, parce que, comme tous les enfants, mais moi, comme j'étais un petit dernier avec des frères qui étaient plus âgés que moi, j'étais un peu plus tout seul dans mon coin. Donc, développement du dessin, ce genre d'activité un peu solitaire. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai jamais vraiment... arrêter le dessin parce que j'ai adoré la bande dessinée et puis les premiers dessins c'était recopier Lucky Luke, les Dalton, j'étais très fort à l'école pour reproduire ça, ou Alix l'Intrépide, enfin des tas de choses comme
Est-ce que les grands artistes commencent toujours en plagiant des gens quand ils sont jeunes?
Peut-être pas les plagier, mais il y a forcément des influences, il y a des démarches, des béquilles. Donc, forcément. Et puis après, moi, j'ai des tas d'influences. Tout le monde a forcément des influences. Après, il faut faire une synthèse de tout ça. Parce que les dessinateurs sont des gens impressionnés par l'image, donc avides d'image. Donc, ça laisse des traces.
Je sens que c'est intéressant avec vous, parce que vous avez répondu à notre questionnaire avec des réponses pour le moins inattendues. Par exemple, la musique que vous écoutez pendant les trajets, c'est des radios FM, ou sinon du rock violent pour les salles d'attente dans les aéroports.
Oui, c'est-à-dire que j'aime beaucoup rouler sur des routes dans des pays que je ne connais pas. Et alors là, j'essaye d'écouter ce qui passe dans la radio locale.
Mais musique ou entretien ou...
Ah non, musique, parce que c'est souvent dans des langues que je ne maîtrise pas totalement. Donc la musique, c'est mieux. Et puis, bon, par exemple, aux États-Unis, dans des grandes routes du désert du Mojave, écouter du country comme ça sur des radios ou des prédicateurs. Ça, c'est amusant.
Mais c'est les salles d'attente des aéroports.
Ah oui, alors les salles d'attente des aéroports.
Dans les écouteurs ou...
Oui, ça, c'est... C'est-à-dire que c'est la partie la plus pénible des voyages maintenant. C'est tout ce qui concerne les aéroports. C'est de plus en plus pénible. Et pour m'isoler, je mets un truc dans les oreilles avec une musique assez violente, genre les Ramones, genre Marilyn Manson. Et là, ça m'isole complètement de toute cette ambiance que je déteste jusqu'à ce qu'on m'appelle pour que je rentre dans l'avion.
Alors, première escale musicale, en tout cas, vous avez choisi Massive Attack. Thank you. C'était Massive Attack, j'imagine, Rooster, que ça vous déstresse un peu dans les sas. C'était The Dissolved Girl, la fille dissoute. Why? Pourquoi Massive Attack?
Massive Attack, c'est un peu une synthèse de beaucoup de courants musicaux que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que notamment ce morceau-là, vous avez pu voir qu'il y a une sorte de montée en puissance. Un peu, au début, c'est très atmosphérique. Et puis après, il y a une sorte d'intervention des guitares très rock, très hard rock, qui se mélangent comme ça. Et moi, j'écoute beaucoup de... J'écoute de la musique toute la journée, à vrai dire. Donc, je ne peux pas dire que j'écoute du rock'n'roll.
Pareil que vous avez une très belle collection de disques dans votre atelier. Vous écoutiez de la musique quand vous dessinez?
Ah oui, toujours, toujours. C'est un métier où on peut. C'est-à-dire que
ça ne vous influence pas? Parce que je vous pose la question, parce qu'il y a des écrivains qui sont venus ici. On dit, pas question d'écouter de la musique, parce que ça me met dans une disponibilité affective qui ne correspond pas à mes écritures, etc. Vous, ce n'est pas le cas.
Oui, non, mais c'est-à-dire que pour l'écriture, je comprends. Moi, quand j'écris assez peu, mais ça m'arrive. Ou alors qu'il faut que je trouve une idée bien précise. Là, j'ai besoin du silence. Mais après, vous avez tout la mise en œuvre d'un dessin. Il y a tout un côté un petit peu artisanal comme ça, où la musique est une sorte de carburant, en fait. C'est-à-dire que je peux faire des dessins très, très mélancoliques, très contemplatifs, en écoutant de la musique violente et faire d'autres dessins en écoutant de la musique très mélancolique, de la musique de film, des choses comme ça.
Alors, votre toute première escale, ça va être Tahiti. Voici votre musique. Let's go to Tahiti par J.J. Cale. C'est juste parce que Tahiti dans le titre, c'est un morceau que vous affectionnez particulièrement, Loustal.
C'est une chanson un peu idiote où il répète tout le temps « Allons à Tahiti ». Et ça joue sur le titre, sur le nom Tahiti qui m'a toujours fait rêver.
Mais vous étiez allé.
Je suis allé l'année dernière. J'avais été une première fois en reportage pour la revue Géo. Dans les îles Marquises. Et là, je suis retourné pour voir un petit peu les lagons, Mururoa, Bora Bora, tout ça. Et bon, bah là, quand on est sensible comme moi aux îles, à la mer, à la lumière et au lointain, pour moi, c'était vraiment un voyage que je voulais absolument faire. Mais c'est vrai qu'en étant là-bas, je me suis quand même pas mal promené en dehors, de l'autre côté de la façade touristique. Et c'est quand même
vous étiez à la
pas
trace
toujours
de Koga,
la joie, d'ailleurs.
Non, on vous a envoyé à la trace de Koga.
Oui, pour Géo, dans les îles Marquises. Mais alors, les îles Marquises, ça ressemble un peu à l'Irlande. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a le brouillard, il pleut, il n'y a pas de lagon. Vous savez, c'est un paysage complètement différent, c'est très, très dur.
Il y a des poissons aussi particuliers, non ?
Les poissons, on ne peut pas les voir aux Marquises parce qu'on est tout de suite avec des fosses abyssales. Et du coup, je me souviens, je faisais du kayak dans une baie comme ça en imaginant les fonds et les créatures qui devaient nager sous mon frêle esquif. Et je suis vite revenu. Non, les poissons, c'est les lagons, c'est Bora Bora, ça c'est extraordinaire.
Vous voyagez tout le temps, j'imagine, pour votre travail. Vous emportez dans vos malles vos outils pour pouvoir dessiner. Je vous pose la question, vous avez dit, parmi les trois objets de luxe que vous emportez toujours avec vous, et c'était la référence dans l'introduction de l'émission, votre Leica.
Oui, c'est-à-dire que j'apporte des outils pour faire des images. C'est-à-dire que quand j'ai le temps, je dessine. Bon, bah, ça n'a rien de luxueux, hein, un petit carnet Moleskine, un porte-mine. Mais au moins faire des photos, rapporter des images. Et... C'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais un peu dans l'orthodoxie du dessin fait sur place. Et je me suis rendu compte que je suis passé à côté de tas d'images très fortes parce que je n'étais pas en mesure de les dessiner. Et du coup, je ne dessinais que des choses en fonction de l'endroit où je pouvais m'asseoir. Vous savez, le genre dans les restaurants, attendre l'addition, tout ça. Et du coup, au bout d'un moment, tous mes premiers carnets, c'est un peu ça. C'était un petit peu lassant. Ce qui fait que maintenant, je mélange et je travaille parfois le soir même ou parfois après le voyage sur les photos que j'ai faites. Mais j'ai toujours fait beaucoup de photos. Moi, je me souviens que le premier journal avec lequel j'ai collaboré, qui était Rock & Folk, je leur ai apporté des photos d'ambiance un peu rock de Londres à l'époque punk et tout.
Vous êtes obsédé par les paquebots, j'ai lu.
Ah, les paquebots, avec l'idée des paquebots, parce que bien sûr, c'est toute la littérature de voyage de la grande époque. C'est quand le voyage avait rien à voir avec ce qu'il est maintenant, hein, parce que. À un moment, je caressais toujours l'idée de faire encore un voyage en paquebot. Mais enfin, si c'est pour aller dans un Costa croisière, non, je ne pense pas.
Est-ce que vous avez besoin, Loustal, de voyager pour vous étonner ? Je vous pose la question parce que, à notre questionnaire, la question « Quelle ville en France vous a étonné ?» Vous avez répondu un tout petit peu sèchement « Aucune ».
Oui, c'est-à-dire que vous me demandiez si j'étais étonné par une ville. Moi, pour être étonné, il faut qu'il y ait une découverte que je ne connaissais pas. Et comme j'ai l'habitude de voyager, d'être confronté à d'autres cultures, d'autres paysages,
oui,
c'est
mais
là où
la Belgique, par exemple, vous m'avez dit que la Belgique.
La Belgique est très dépaysante pour moi. Oui, c'était mes premiers voyages. Et aussi bien Bruxelles, il y a un petit côté. Je me souviens, les flics étaient tous en Harley Davidson, déjà, rien que ça, ça me faisait...
Où ça, en Belgique ?
Oui, à Bruxelles, et dans les années 70. Et puis le tissu architectural de la ville est très différent. Et il y a quelque chose de très art déco. Non, c'est une ville... je dis ça parce que c'est les voyages les plus proches que j'ai dû faire les plus tôt.
Votre deuxième escale, ce sera Lanzarote.
De noche y de noche. solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor, qué significa un año de amor. Parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor.
La suprema calidad de Luz Casal, un año de amor, pour parler de Lanzarote. Lucien Lanzarote a une image, moi je vous avoue que je n'ai jamais été, mais c'est quand même une image un peu de building et de charter. Comment est l'île vraiment?
Pas du tout. En fait, Lanzarote, c'est une des îles des Canaries. La plus connue, c'est Grande Canarie ou Palma, je ne sais pas. Mais Lanzarote, c'est une île totalement volcanique et où j'ai eu la chance d'aller dans un tout petit hôtel avec très peu de chambres, hors saison, donc je n'ai pas vu grand monde. Et j'ai vu ces paysages de volcans, un paysage très très minéral qui m'a donné l'occasion de commencer à dessiner des paysages comme ça au fusain. Et j'en ai fait beaucoup, c'est pour ça que c'est resté... très très important pour moi. Et puis cette idée de un peu comme un bout d'Afrique, de Sahara perdu au milieu de l'Atlantique, j'ai trouvé ça l'idée très très belle. Et en plus Lanzarote particulièrement est entièrement designé par un artiste espagnol qui s'appelle Manrique, qui a fait tout le mobilier urbain, la signalétique, il a un musée magnifique et tout. Donc, je sais pas, c'est une île qui m'a énormément plu. Et alors donc, Luz Casal, parce que c'est espagnol, mais que j'ai découvert dans un film d'Almodovar, cette chanson magnifique qui est d'ailleurs écrite par Nino Ferrer. Et la voix, le chant espagnol, je trouve ça magnifique, l'espagnol chanté.
C'est magnifique, même parler. Vous dites que vous aimez les îles. Vous comprenez, justement, on parle de Lanzarote, mais vous aimez les îles. Votre plus beau voyage, par exemple, c'était dans une île, enfin les îles Galapagos.
Oui, voilà. En fait, je me rends compte que quand on me demande de choisir mes destinations favorites, c'est les îles.
C'est-à-dire que vous avez parlé de l'Angleterre comme une île.
Ouais. C'est pas non, je veux des îles plus petites, des îles dont je peux faire le tour.
Ah non, vous avez cité l'Angleterre, hein, j'ai la copie. Parlez-nous des Galapagos.
Alors, les Galapagos, c'est un voyage extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Équateur et à un moment, je me suis dit que j'allais me prendre quelques jours pour partir aux Galapagos. Et là, on arrive dans un petit aéroport tout petit. On monte dans un bateau où il y a assez peu de place. C'est une sorte de croisière où il y a quoi, 10 personnes à bord. On navigue la nuit et chaque jour, on découvre une île différente parce qu'elles sont très différentes. Il y en a qui sont très arides, d'autres qui sont très luxuriantes.
Parce que c'est au milieu de nulle part, en fait. C'est au milieu de l'océan. C'est complètement protégé.
Oui. Et puis alors là, on descend à terre avec un effectif très réduit. Et puis là, on est au milieu d'espèces animales démentes qu'on voit nulle part ailleurs. On peut se baigner au milieu des otaries, des raies-mantas et des iguanes marins. Et des pingouins aussi, d'ailleurs. Et non, c'était un grand moment. Mais c'est vrai que moi, j'adore la mer, mais pas comme un marin qui passerait son temps sur son bateau à essayer d'aller le plus vite d'un point à un autre. Ce que j'aime, en fait, c'est le paysage marin, le rapport de la terre et de la mer. Et du coup, les îles comme ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Ça continue. La plupart de mes projets de voyage, c'est encore dans des îles que je ne connais pas.
Rendez-vous maintenant un peu au nord de l'Angleterre, sur les îles britanniques, et destination les Highlands. Alors, ça, c'est Craig Armstrong. Le morceau s'appelle Glasgow, pour parler des Highlands. Alors, dans le recueil Dessins d'ailleurs, Loustal, qui est sorti en 2011, c'est
oui,
ça.
Je
trouve que c'est une des parties les plus réussies. Ce sont vos dessins sur les Highlands d'Écosse, qui sont des couleurs remarquables. L'homme, de toute évidence, ne désirait pas être dérangé. Vous étiez allé quand
J'y suis allé, juste avant. À vrai dire, ce livre est le sixième de mes recueils de dessins de voyage. Les cinq précédents étaient sortis au Seuil, maintenant ils sortent à la table ronde. Et je ne voulais pas le faire tant que je n'avais pas fait un voyage en Écosse. Ça faisait très longtemps que je voulais... Voilà, c'est mon goût du moment, enfin ça fait... pour les grands espaces un peu désolés, vous voyez, Lanzarote, les Highlands,
il en émane une solitude invraisemblable.
Et me retrouver dans ces... aller tout au nord de l'île de l'Angleterre, quoi. Se retrouver au Cap Colère, comme ça, avec des noms Cap Wrath.
Cap Wrath, oui. C'est même au nord de l'Angleterre, c'est l'Écosse carrément.
Oui, oui, ben, je suis allé jusque là-bas et on prend une voiture sur des toutes petites routes, on croise personne, il y a des paysages très, très vierges. Et là, je suis au volant et dès que je vois une... Je sais pas, il y a une sorte de composition graphique qui apparaît avec le paysage, avec des arbres, avec une petite maison, une silhouette de montagne, de l'eau. Ah, je m'arrête et ça m'inspire une image, un dessin. Et c'est comme ça que je fais tous ces dessins de voyage. C'est purement impressionniste. C'est pas vraiment des reportages. Et en fait, c'est aussi pour ça que je continue. Le dessin de voyage, c'est né d'un plaisir. C'est-à-dire que c'était l'addition du plaisir de dessiner, du plaisir d'être ailleurs, de voyager,
ce qui est bizarre,
de rendre compte d'une entreprise.
C'est un mélange de couleurs, par exemple sur les Highlands. Là, je te vois un dessin qui est plein de couleurs avec l'eau bleue et puis les collines vertes. Et puis tout d'un coup, ces choses beaucoup plus dures en noir et blanc avec des lignes très, très droites.
Oui, parce que justement, le dessin de voyage offre cette liberté d'utiliser l'outil qu'on a envie au moment où on dessine. Quoi, voyez. Donc il y a beaucoup de fusains qui sont peut-être liés à des paysages plus minéraux, des trucs où la couleur ne saute pas forcément aux yeux. Et puis d'autres où l'aquarelle. Et en plus, c'est vrai que quand je voyage en Irlande, en Angleterre, en Écosse, j'ai toujours cette petite référence, ce passage obligé à l'aquarelle anglaise, l'image de l'aquarelliste anglais, moi le meilleur, quoi, hein, la grande école des aquarelles anglaises. Et je mets à faire quelques aquarelles très, très fines, très précises, pour aller dans cette direction, sans jamais les égaler, bien sûr, mais... Vous voyez, l'aquarelle de la fin du 19e en Angleterre, c'était un art vraiment porté au maximum par les Anglais.
Vous écoutez Voyage en moi majeur ce dimanche soir sur France Musique avec notre commandant de bord Loustal. Alors, votre plus mauvais souvenir de voyage, selon vos réponses à notre questionnaire, c'est l'Algérie.
Eh bien, écoutez, là, oui, j'en rencontre dans le dernier numéro de Long Cours. Parce que c'est un voyage que j'ai fait l'année dernière et c'est vrai que bon, il y a c'est pas le voyage en entier, mais comme j'avais été victime d'un attentat, évidemment c'était pas très gai et très agréable comme voyage. C'était une bombe sur les voitures d'escorte qui nous amenaient sur la côte de Kabylie. J'étais à Constantine. Bon, moi, j'étais absolument pas visé. Simplement, c'est les voitures. Quand on se ramène là-bas, il faut avoir des voitures d'escorte, de la police, de la gendarmerie, de l'armée. Et du coup, ce qui est visé, c'est eux, c'est les symboles du pouvoir. Donc, la bombe a explosé sur la voiture qui était devant nous. Mais bon, tout ça, ça fait un peu de stress. Et, ça n'a pas été extrêmement grave. Il n'y a pas eu de blessés. Mais beaucoup de tensions, de coups de feu. Voilà. Donc évidemment, quand on me demande mon plus mauvais souvenir, c'est un souvenir que ça m'a donné l'occasion de le raconter, comme si c'est bien terminé, c'était pas si mauvais. Bon, après, les mauvais souvenirs, c'est aussi lié à des avions annulés, des choses comme ça, vous voyez.
Alors là, dans le dernier numéro de Long Cours, avec lequel nous sommes en partenariat dans cette émission, il y a des dessins sur l'Algérie. Les couleurs sont assez étonnantes. Parfois, c'est en marron, parfois, c'est en noir.
Oui,
blanc,
en fait, il se trouve que ça s'appelle Résidence à Constantine. C'est parce qu'à l'occasion de... Je crois qu'il y a un an à peu près, j'avais été invité par l'Institut français de Constantine pour une...
C'était au printemps 2012, oui.
Oui, c'est
selon
ça.
Selon le texte.
Et donc, c'est quelque chose que je fais assez souvent avec les instituts français. C'est-à-dire que j'arrive, je reste soit entre 10 et 15 jours dans l'endroit. Je fais beaucoup de dessins sur place. Et il y a une exposition des dessins que j'ai faits. Un peu la veille de mon départ, c'est-à-dire plus tard, plus j'ai le temps de faire de dessins. Et à côté de ça, je donne quelques conférences, soit dans les écoles des beaux-arts locales, soit aux médiathèques, en parlant de la bande dessinée, en parlant du métier d'illustrateur à travers mon expérience. Et puis, il y a ces dessins. Et alors, quand Loncourt m'a demandé si j'avais un petit voyage récent, comme ça que je venais de faire, j'ai pensé à tout ce petit voyage à Constantine où, effectivement, il y avait des choses à raconter. Hein. C'est vrai qu'il y avait plus matière à un reportage, à des choses observées que, par exemple, à un voyage à Tahiti. D'ailleurs, je suis allé à Constantine une semaine après être revenu de Tahiti. Et
Le plus étonnant pour moi, c'est les marchés proposent un grand choix de tissus imprimés. On aurait pu croire à quelque chose avec beaucoup de couleurs, mais pas du tout. Justement, c'est en noir et blanc, vous avez décidé de le faire avec beaucoup de têtes de femmes.
Oui, c'est porter les foulards islamiques.
Oui, voilà, donc avec des têtes...
Non, mais là, le côté noir et blanc ou monochrome avec des lavis d'encre sépia, c'est aussi lié au fait que j'ai une semaine pour faire une vingtaine de dessins relativement élaborés. Donc, à un moment, je ne peux pas non plus tout mettre en couleur.
C'est vous qui avez fait les textes ?
Oui, j'ai fait les textes.
Alors, je vous cite en ville, beaucoup de piétons, beaucoup de paraboles et beaucoup d'automobiles. Coincé dans un embouteillage inextricable, mon chauffeur m'assure que c'est beaucoup mieux depuis que tous les feux rouges ont été supprimés. Du coup, la condition de piéton est périlleuse, mais je m'habitue vite. Vous avez l'air de quand même aimer beaucoup cette ville et son brouhaha.
Ah, bah, c'est une ville, c'est un site extraordinaire, Constantine. C'est une ville construite sur un canyon, comme ça. Il y a des ponts, il y a des architectures magnifiques. Et puis bon, vous passez une semaine dans un endroit que vous ne connaissez pas. Si vous avez la curiosité, c'est toujours excitant. Même si ce que j'explique au début du reportage, quand je suis arrivé en avion et que j'ai vu des cités façon La Courneuve sur des kilomètres et des kilomètres, je me demandais un peu ce que je venais faire là. Mais je devais être du mauvais côté de l'avion, parce que la vieille ville où je suis resté était magnifique. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de faire ce qu'on veut, de sortir. Il faut toujours qu'il y ait des gardes du corps. Il y a des endroits qui sont franchement déconseillés. Vous voyez, il n'y a pas énormément de tourisme quand même en Algérie.
Alors, c'est en collaboration avec le magazine Loncourt. Nous offrons des exemplaires de Loncourt. Je vais vous donner l'adresse postale et aussi sur le web à la fin d'émission, le temps que vous allez chercher des crayons, parce que la dernière fois, j'ai donné beaucoup trop vite et vous n'avez pas pu, vous nous avez écrit pour nous dire que vous n'avez pas pu prendre l'adresse, donc voilà, c'était un peu compliqué. Nous allons poursuivre notre voyage pour ce dimanche soir à un endroit, vous êtes le premier à avoir choisi l'Oustal, cet endroit-là, c'est la Namibie. The Doors, Roadhouse Blues, ça c'est pour parler de... Enfin, le lien est assez hermétique, mais avec la Namibie.
Oui, la Namibie, ben, c'est-à-dire que j'ai beaucoup roulé, et là, exceptionnellement...
Il y a des routes.
J'étais aussi dans une résidence ou pour une expo, un atelier, et j'avais gravé un CD, parce que je savais que j'allais beaucoup rouler, et il y avait ce morceau... Et ce morceau emblématique de toute la musique dont je me suis nourri depuis des années. Et puis bon, c'était lié comme ça, les grands espaces, la voiture, tout ça. Et la Namibie, bien sûr qu'il y a des routes, elles sont très,
on imagine
très
que
bien.
C'est que du désert. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de Namibiens choqués qui nous écoutent.
Mais... La Namibie, c'est un pays, c'est le pays le moins peuplé, je pense, du monde, donc... Voilà, quand on est un peu agoraphobe, c'est parfait. Et puis...
Du coup, est-ce qu'ils ont besoin d'aller quelque part?
Je sais comment ça, d'aller quelque part.
Vous me dites qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais où est-ce qu'ils vont alors s'il y a ce sont de grands espaces désertiques?
Il y a des bouts du monde, ce que j'appelle des bouts du monde. Il n'y a pas de grandes routes côtières, vous voyez, il y a des routes qui arrivent sur la côte, près de la Skeleton Coast, déjà, tout ça, avec tous les vieux bateaux rouillés. C'est les cargos qui ont fait naufrage. C'est une côte très dangereuse, qui sont avec le sable qui avance. Donc, les bateaux sont à l'intérieur des terres. Comme ça, ça fait des paysages extraordinaires.
Et puis, c'est une ancienne colonie allemande. Non ?
Oui, en plus, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à Swakopmund, par exemple. Et là, on trouve des antiquaires qui vendent encore des croix de fer. Donc, et il y a des tavernes bavaroises, il y a des tas de trucs comme ça. Mais ça a été supprimé aux Allemands après la Première Guerre mondiale. Donc, et ce qu'il y a de formidable dans ce pays, c'est qu'on peut avoir accès à des paysages vraiment extrêmes, mais qui sont assez faciles d'accès. Vous voyez, il y a ces fameuses dunes de sable rouge à Swakopmund où il n'y a vraiment personne. On est dans les paysages de la planète Mars. C'est vraiment un dépaysement total. Et puis, c'est vrai que ça ressemble... Après, j'ai eu l'occasion récemment d'aller beaucoup en Afrique du Sud. Et c'est vrai que c'est toute la complexité de ces pays. Mais au niveau d'un voyage en voiture, c'est quand même... C'est plus facile qu'en plein milieu du Cameroun, par exemple.
Il y a une réponse, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Une personne étonnante rencontrée ailleurs ou dans un train, un avion, etc. Quelques blancs exilés dans des bouts du monde qui tiennent parfois des hôtels.
Oui, c'est vrai, quand vous me demandiez une personne étonnante. C'est vrai que moi, quand je voyage, je rencontre des gens, mais je ne suis pas le genre à aller faire le portrait des gens dans les cafés, tout ça. Je vais plutôt voir des ambiances, des atmosphères, des trucs comme ça. Et c'est vrai que, en réfléchissant, en Namibie, en Afrique du Sud, j'ai vu des gens comme ça, très isolés. Et alors, on ne se connaît pas trop leur passé, c'est toujours un peu mystérieux. C'est en ce sens qu'ils étaient étonnants, mais bon, ils vivaient comme ça.
Ils tiennent toujours des hôtels.
Ça leur permet de vivre, de tenir un hôtel, oui, c'est ça, on monte un petit hôtel. Il y avait un petit côté aventurier ou fin de parcours comme ça. C'était un peu romanesque, quoi, quand on discutait avec
vous. Vous avez dû voir des hôtels cartinés, vous, dans votre expérience.
Ah, j'aime bien aller dans les petits hôtels. Oui, j'ai horreur des petits hôtels où il y a vraiment des ambiances, les petits, un peu dans leur jus, vous voyez. Ça, au Maroc aussi, où j'ai beaucoup voyagé, on trouve encore quelques vieux hôtels comme ça. Mais c'est vrai que de moins en moins, parce que maintenant tout est construit pour recevoir le maximum de gens.
Et vous descendez parfois dans des hôtels de luxe ? Est-ce que ça donne la même envie de dessiner ?
Je suis invité dans des hôtels de luxe.
Est-ce que vous y allez ?
Je viens de passer au mois de septembre dernier pour le Salon du Livre du Cap, où j'avais fait un livre sur l'Afrique du Sud. Et j'ai séjourné quelques jours au Mount Nelson Hotel, qui est quand même le plus bel hôtel du Cap. Et là, je dois dire que c'est pas désagréable non plus.
Quel vestito da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, quante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E intanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. E intanto il tempo se ne va, tra i sogni e le preoccupazioni. Le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni. Sì, donna, è più che normale, ma una figlia è una cosa speciale. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima.
Adriano Celentano, il tempo se ne va, pour parler l'Oustal des îles éoliennes.
Oui, ben, donc j'écoute Stromboli. Pas ça toute la journée. Hein. Il se trouve que sur les îles éoliennes, je cherchais quelque chose d'italien. Et puis j'ai retrouvé ce vieux disque de Celentano avec cette chanson assez mélancolique. Une belle voix, le tempo, et puis c'est tout mon amour pour l'Italie, pour le cinéma italien, pour... Il y a quelque chose là qui se dégage de cette chanson. Et donc, les îles éoliennes, c'est bon, bah, toujours les îles. Et puis, c'est pour moi, quand j'étais là-bas, genre au mois de novembre, vous voyez, il y avait très peu de monde, la mer était d'huile. Et on pouvait aller d'une île à l'autre, Liparis, Stromboli, tout ça. Et c'était vraiment la quintessence de la Méditerranée. C'est-à-dire que moi, je me sens très méditerranéen. Mes premiers voyages, ça a été dans tout le bassin méditerranéen. Et c'était presque... voilà, je m'étais promis de relire Homère en rentrant des îles éoliennes, mais je n'ai jamais pris le temps. Mais vous voyez,
pourquoi vous avez grandi avec Homère ?
Oui, bah, okay, un petit peu, mais là, je voulais lire dans son intégralité, au moins, l'Odyssée, quoi, qui est le truc de la Méditerranée. Quoi. Et là, bah, tous ces archipels, ces volcans, c'est très graphique. Moi, je dessine très souvent des volcans en arrière-plan de mes dessins. Et oui, c'était un grand souvenir.
Vous avez dessiné les îles éoliennes dans un autre recueil, mais là, dans le dessin d'ailleurs, c'est la côte amalfitaine. Et j'adore, parce qu'il se trouve que moi, j'ai passé mes vacances l'année dernière, j'ai découvert cette côte. Et là, c'est par temps couvert. C'est justement ça qui la rend encore plus dramatique avec ces falaises complètement escarpées, où il y a plein de routes et de villages à même la falaise. Enfin, c'est vraiment spectaculaire.
Oui, oui, j'avais une exposition à Naples et j'avais décidé d'aller faire un tour dans ces îles, sur la côte, là, en descendant. Ce que je ne connaissais pas vraiment, mais c'est vrai que c'est des paysages tellement de cartes postales, mais magnifiques, parfaites, hein, cartes postales, ça veut dire que c'est quand
même une prouesse
bien.
Humaine d'avoir mais, incrusté oui, ces oui, villages. Oui. À
mais
même
j'ai vu fait. Tout ça sous un temps gris. Alors bon, c'est un peu ce qu'il en est sorti. Mais toujours pareil, j'aime bien voyager un peu hors saison, moi. Donc, c'était mieux.
Le repas le plus étonnant au cours de vos voyages, emmenez-nous à Hanoï, où vous avez mangé une fricassée de scorpion.
Oui, oui, j'étais avec un ami qui me dit, tiens, on va aller dans un petit resto local, et on m'a proposé ça. Et c'est vrai que là, c'est assez terrible, mais les gens mangeaient ça, moi j'ai... Est-ce que j'ai même goûté, je ne sais pas, mais bon, ça, parce qu'on voit exactement ce qu'on mange, hein, on reconnaît tout à fait le scorpion, quoi.
Et ça, quel
mais
goût.
Grillé, quoi. Oh, c'est un peu comme les sauterelles, tout ça, quoi. C'est pas un goût un peu fort.
De la musique classique. Arthur Rubinstein avec le premier nocturne de Chopin. Votre père, Loustal, était général de l'armée.
Oui.
J'ai du mal à l'imaginer, je ne sais pas pourquoi.
Il était aviateur, oui, oui. Et donc, il n'était pas du tout mélomane. C'est marrant, il n'y avait pas du tout de musique. Et la musique classique, pour moi, c'était... c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, en fait.
Et Chopin, pourquoi ce choix-là ?
Parce que j'aime beaucoup les pièces pour piano seul. J'adore le piano. Et
vous
malheureusement, mon père, à qui on avait dû apprendre à jouer au piano, on avait forcé, n'a jamais obligé ses enfants à jouer. Et moi, je le regrette parce que, bon, maintenant, c'est beaucoup trop tard. Et ça me manque de pas jouer de la musique. Et à un moment, j'ai trouvé un truc qui s'appelle le piano pour les nuls. Alors je me suis dit, bah tiens, formidable, on va pouvoir y arriver facilement. Mais dès le chapitre 2, il fallait se faire tout le solfège. Et donc j'ai abandonné. Et voilà, de toute façon, on peut pas tout faire. Mais c'est pour ça que j'écoute tout le temps. Et c'est vrai que Chopin, c'est... Oui, toutes les pièces pour piano seul, Schubert, Chopin, les sonates de Beethoven, tout ça, c'est des choses que j'ai, ou Debussy, c'est des choses que j'écoute souvent, ça. Mais dans des contextes particuliers, dans des lieux particuliers, dans des lieux assez chargés d'histoire, vous voyez, dans
Chopin,
des vieilles maisons.
C'est dans une vieille maison, c'est
quoi ? Oui, c'est une vieille maison dans les monts du Lyonnais, vous voyez, avec les collines à perte de vue, tout ça. Ça, c'est parfait pour ça.
On a chanté ce morceau qui est sublime, malheureusement, parce qu'on voulait. Vous avez insisté, vous avez raison, c'est votre choix musical, de mettre un peu de Miles Davis pour terminer l'émission. Alors, le jazz, et vous, c'est une grande histoire.
Oui, enfin, c'est une histoire et un petit peu un malentendu, parce que le jazz, en fait, c'est vrai que j'ai fait un livre qui s'appelle Barney et la note bleue, qui était inspiré de la vie de Barney Whelan, saxophoniste prodige, comme ça, très jeune, qui d'ailleurs joue sur Ascenseur pour l'échafaud, qu'on en écoute là, et il a joué avec Miles Davis. Et ce livre a eu un certain succès parce qu'il commençait. Il est sorti au moment où Barney Whelan revenait. Philippe Paringo l'avait écrit. Et lui, c'était un grand rock critique. C'était le rédacteur en chef de Rock et Folk. Mais il était plus âgé que moi. Il avait une sorte de tribut à payer. Le jazz faisait partie de sa formation musicale. Alors que moi, beaucoup moins, en fait. Et du coup. Du coup, je me suis amené à faire ce livre en utilisant le jazz comme générateur d'images, vous voyez, un peu le jazz à travers la musique de films noirs. Donc, Ascenseur pour l'échafaud, c'est tout à fait ça. C'est comme ça que moi, j'abordais le jazz, comme je voyais des films des années 50. Il y avait aussi beaucoup d'autres... jazzmen que j'aime beaucoup, qui avait travaillé pour des films plutôt des années 60-70, ou Lalo Schifrin, Jerry Mulligan, Chico Hamilton, ou Jimmy Smith, vous voyez, ce genre de son comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu m'intéresser au jazz. Mais il ne faut vraiment pas croire que je suis un fan de jazz qui connaît. Moi, je suis moi, c'est le rock et la guitare électrique, enfin, dans ce que j'écoute, hein. C'est plus Jimmy Page que John Coltrane, hein, même si ça choque les gens.
C'est Miles Davis. Merci beaucoup, Loustal.
Merci.
Thank you.
Donc Miles Davis, je vous rappelle comme promis l'adresse, c'est francemusique.fr bien sûr sur le site pour demander ces exemplaires de long cours avec lesquels Loustal a collaboré. Ou sinon, si vous voulez écrire à la main, vous pouvez écrire des lettres. D'ailleurs, il y en a beaucoup depuis que vous avez appris que notre émission va être supprimée. Je vous remercie beaucoup pour ces lettres. Donc Maude Nourry, France Musique, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Sedex 16. Vous pouvez nous envoyer vos lettres. C'est toujours sympathique de les recevoir. Loustal, merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire, accrocher votre curiosité au nom de toute l'équipe et avec aux commandes Fabien Florent, notre réalisateur, Maude Nourry, comme j'ai cité tout à l'heure, notre assistante de production, et à la technique ce soir, Marie Lepinte. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et nous espérons surtout vous revoir la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique. Et nous retrouvons tout de suite, bien sûr, Laurent Valero pour ses Nuits Noires de Monde. Bonsoir, Laurent.